Je ne suis pas de la vallée, mais j'ai grandi et je vis dans la vallée. Je ne suis pas très loin, je suis né à Château-Arnoux, j'y vis, j'y travaille, j'y habite. Et la vallée, depuis tout petit, c'est un des endroits où je passe le plus de temps. Entre autres, quand j'étais petit, ma grand-mère nous amenait tous les samedis ou tous les dimanches dans un petit trou au-dessus de Noyers, qu'elle disait le trou. Et j'ai appris à pêcher, j'ai appris à nager avec mon frère. C'est la plupart du temps, c'est mon oncle qui a 7 ans de plus que nous, qui nous avait pris un peu sous son aile. Donc, il accompagnait ma grand-mère. Alors nous, on était petits, on avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce qu'on devienne des ados et qu'on soit un petit peu indépendants. Et qu'à partir de ce moment-là, on a voulu venir pêcher que nous, dans le Javron. J'ai une petite anecdote d'un vélo que mon autre grand-mère, peu de temps avant de mourir, nous avait offert, un vélo de dame, couleur moutarde, et partait de Château-Arnoux à deux sur le même vélo. Comme j'étais un peu plus costaud, c'est moi qui pédalais, et mon frère qui était assis sur la selle. Et on se tapait Château, l'entrée de la vallée du Javron, pour venir pêcher toute la journée, en disant à ma mère qu'on allait pêcher aux salettes à Château, les petits étangs, et finalement on venait dans la vallée du Javron. C'était assez particulier parce que c'était super loin, hein. Ça fait, je ne veux pas dire de bêtises, on doit être autour de 10 km. C'était physiquement difficile parce que, en plus du fait de venir, il fallait pour pouvoir ramener le poisson, parce qu'on allait pêcher, il fallait justifier à ma maman qu'on était venu à la pêche. On arrivait, on avait une bouteille d'eau, mais on la remplissait dans le Javron. À l'époque, elle était propre, l'eau, il y avait de la flotte, il y avait... Là, aujourd'hui, j'ai 46 ans... Je parle de ça, que j'avais, jusqu'à ce qu'on ait la voiture, mais on avait 14-15 ans, 14 pour mon frère, 15 pour moi, et on venait, on passait des journées entières dans le Javron, donc la plupart du temps on faisait les parcours bas, parce qu'il fallait éviter de monter jusqu'ici, jusqu'à Noyers ou jusqu'à Saint-Vincent, mais après dès qu'on a eu la voiture, on a un petit peu découvert le reste du Javron. Il n'a quasiment plus de secret pour nous, on connaît les moindres souches où il y a des belles truites, parce que de toute manière, nous on est du... 99% no killer. Le pourcent qui va rester, c'est vraiment la grosse belle truite, un fario ou une vieille lâchée qui était bagarreuse mais qui n'était pas justifiée de laisser là parce qu'elle ne se reproduisent pas, ou un mâle un peu gros avec le bec. Quand on dit un bécard, c'est qu'il a le sourire. Ça, c'est les grosses, les vieilles truites, elles ne sont pas obligées de rester dans l'eau. Et on en ramène une à la grand-mère, enfin, on a encore la chance de la voir et elle a sa jolie truite tous les ans. Le Javron, pour avoir découvert dès qu'on a eu 18-19 ans, les gorges du Javron, pêcher les gorges du Javron, parce que nous on est des pêcheurs de Véron, pêcheurs maniers, c'est lancer, ramener, mais c'est en même temps le développement de plusieurs techniques de pêche. Et ça nous arrivait d'aller de vouloir pêcher les gorges, et les gorges, ben, t'es obligé de nager pour pouvoir les pêcher entièrement. Donc comme tu les pêches en montant, donc forcément c'est en été, parce que l'eau elle est quand même fraîche, hein, en plein été. C'était génial parce que tu arrivais, tu étais tout mouillé, mais une demi-heure après, tu étais sec parce que c'est l'été, ça castagne dans le Javron. C'était des endroits où tu attrapes des poissons, mais tu te dis, là, il n'y en a pas, c'est pas possible, et puis tu en attrapes, et puis tu les remets à l'eau, et puis tu reviens 5-6 jours plus tard, ben, tu la rattrapes la même, parce qu'il faut qu'elle bouffe, la pauvre. Pour avoir écrasé les hameçons, pour ne pas les abîmer, c'est très très rare quand on ne peut pas les relâcher, c'est qu'elles ont un peu trop saigné. Ça arrivait qu'elles le prennent l'hameçon dans l'œil, même si on a écrasé l'ardillon. Bon, mais là, on n'a pas bien le choix, c'est comme ça. Mais c'est des beaux moments de vie commune avec mon petit frère. Avec le temps, avec mon métier, dans lequel je délivre les cartes de pêche pour la Gaule Sisteronnaise, qui s'occupe du Javron, entre autres, il y a maintenant 13 ans, j'ai souhaité rentrer dans le bureau de la pêche. J'en suis devenu le vice-président depuis. Je suis celui qui donne la main aux anciens pour pouvoir aleviner les petits affluents du Javron. Il faut éviter de mettre des petites truitelles en octobre ou encore pire en juin parce qu'il y a peu d'eau. Mais il faut faire des bons choix des cours d'eau qui coulent, qui ont assez d'oxygène pour que cette petite truitelle puisse se développer et qu'elle finisse dans le Javron. Voilà comment on travaille dans le temps. Donc ces truitelles, on va les chercher à Digne, à la Fédération de pêche du 04. Donc ils en élèvent. Donc c'est des poissons pour le mois de Pour le mois de juin, c'est des poissons qui font à peu près 3 cm. Par contre, pour le mois d'octobre, ils sont un petit peu plus gros, on est sur du 5-6 cm. Là, on a un peu plus de chance, comme il y a un peu plus de flotte, parce qu'il commence à y avoir un peu les eaux de l'automne. L'alevinage du mois d'octobre est plus bénéfique que le mois de juin, parce qu'il y a un peu moins d'eau, mais le mois de juin, il est nécessaire. C'est comme ça, ça a été réfléchi par pas mal de techniciens de l'eau, et on essaye d'alimenter tous les affluents qui ont suffisamment de flotte. Il y en a certains, comme celui qui remonte à côté de Curel, dans les hauteurs. Il est impressionnant parce que c'est que, comme on dit en provençal, des bancaux. Donc ça nous fait des petites bassines d'eau, et tu es obligé de marcher d'un coin à l'autre. Mais quand tu as le vin, tu as un gros sac à dos qui fait à peu près 30 litres, et que tu as monté à pied tout en haut, il faut que tu descendes presque en courant, parce qu'une fois que le sac est ouvert, il n'y a plus d'oxygène, elles ont très peu d'oxygène et elles risquent de mourir dans l'eau. Donc il faut vite les mettre dans le cours, mais là tu redescends en courant, alors tu te casses la gueule, tu glisses, c'est presque dangereux, mais on a pu, grâce aux anciens qui nous ont dit, les petits jeunes, essayez de mettre un peu le poisson là, essayez de le mettre un peu. Depuis des années, ils font comme ça, et ça c'est la version repeuplement. On aide un peu le Jabron à être repeuplé, parce que en lui-même, il y a tellement peu d'eau en été qu'il souffre beaucoup. La plupart des poissons se retrouvent dans la Durance, dans un milieu un peu mieux pour eux, un peu plus facile à vivre, et finalement, il remontera qu'en hiver dans le Jabron. Et dans la Durance, il suffit qu'il y ait une crue, là le poisson ne tient pas, il descend. Donc, essayer d'alimenter ces petits cours d'eau. Après, il y a une autre deuxième façon, c'est ce qu'on appelle les lâchers de reprise. Comme ils disent les anciens, les balourdes, c'est des truites qui font à peu près entre 20 et 30 cm. C'est des truites arc-en-ciel qui ne sont pas du tout de souche, mais qui sont là pour tous les pêcheurs, parce qu'il en faut pour tous. Donc aussi, donner une limite à la société de pêche de Sisteron, à la PPMA de Sisteron, on s'est donné les limites de ne pas dépasser le noyer. Donc d'en bas, de l'affluent, donc du confluent, pardon, jusqu'à Noyer, on ne met plus de lâcher. De lâcher de balourdes, de lâcher d'arc-en-ciel. Pour pas que le travail qu'on fait de lâcher de petites truites, ces truites-là nous les mangent. Sinon, on fait n'importe quoi. Après, tous les ans, on choisit des endroits où on fait des pêches électriques, pour pouvoir compter les poissons. Alors, on ne fait pas des pêches électriques dans le Jabron, parce qu'il a déjà trop d'eau. Même en été, il a un peu trop d'eau. Faire des pêches électriques. Mais on fait des pêches électriques dans les affluents où on a foutu des petites truitelles. Et puis finalement, on se trouve qu'il y a quand même pas mal de truites qui sont capables d'aller alimenter le Jabron après. Bon, c'est jamais des gros poissons, hein, parce que il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas beaucoup à bouffer. Mais par contre, dans le Jabron, il y a à manger. Mais depuis quelques années, vous prenez par exemple le parcours Noyer jusqu'à Valbelle, il n'y a quasiment pas de trous, c'est tout plat, c'est un radier. Comme il y a de moins en moins d'eau, elle va un peu plus en profondeur et ça fait que de l'eau qui court, donc elle n'est pas pêchable. Et pour le poisson, ben, il ne se développe pas dans de l'eau qui court. Faut qu'il y ait quand même des trous. J'ai 46 ans, ça fait 19 ans que je viens chasser à Monfroc avec l'équipe du village, parce qu'il n'y a qu'une équipe, l'équipe de Alain Roux. C'est grâce à mon papa que j'ai fait des rencontres de copains avec qui on partage beaucoup, parce qu'on vient principalement chasser le sanglier. Et puis, depuis quelques années, avec mon père et mon frère, on a décidé, vu qu'il y a quand même un plan de chasse établi sur le chevreuil, sur le cerf, on a décidé de mettre des chiens. Et ces chiens, à tour de rôle avec mon papa, un coup c'est lui, un coup c'est moi. Bon, comme il arrive à 70, on essaye quand j'y suis, que ce soit moi qui mène les chiens. Ça se passe tout autour du Jabron, hein, donc à Monfroc. Et Monfroc est coupé en deux par la route et par le Jabron. Donc quand on chasse d'un côté, souvent quand c'est le cerf a tendance à filer loin, à aller loin. Et assez souvent, quand ils passent d'un côté à l'autre de Monfroc, les chiens, ils perdent ses traces quand ils traversent le Jabron. Et le cerf, il le sait, ça, donc il le fait souvent. Et c'est pour ça que je me retrouve assez souvent au pied de Curel, au pied de l'Ange, au pied des Omergues. Et quand je dis au pied, c'est en bas, et c'est dans le Jabron. On dit toujours au pied parce qu'en fait, c'est de la montagne. Donc la montagne, il faut y aller en haut. Hein. Et quand tu es en haut et que tu entends tes chiens là-bas en bas, oh putain, il faut y aller. Parce qu'il faut y aller, il faut aller les rechercher. Ça veut dire que les copains, ils attendent à un endroit où ils espèrent que le gibier est passé, mais il est déjà passé. Donc, on vit des moments super sympas avec des gens qui sont nés ici. Moi, je ne suis pas né dans cet endroit, mais c'est comme je connais le moindre chemin par cœur. Je parle principalement de Monfroc. au bout de la vallée, parce que là, à Montfroc, c'est vraiment l'endroit où il y a les gorges. Bah, ça nous est arrivé, on a vu des anecdotes, un sanglier qui était blessé, qui est venu se foutre dans les gorges pour pas que les chiens l'attrapent. Parce qu'il y avait un des chasseurs qui l'avait blessé à la patte et mais on n'est pas arrivé à le sortir. Hein. Il ne laissait pas faire parce qu'il était méchant, il avait blessé les chiens. Après, des fois, voilà, on n'a pas le choix. Il a gagné et c'est bien. Le truc de la chasse, c'est que c'est vrai, in fine, on tue la bête. C'est tuer, c'est la version je prélève ou je fais du mal. Mais bon, la pêche, on a la chance d'arriver à faire du presque 100%, voire même plus, puisque quand c'est des gars comme moi qu'on fait des alvinages. En revanche, la chasse, c'est un petit peu plus compliqué parce que ben, ça fait partie de ça. Mais j'ai une petite anecdote. Je menais les chiens au sanglier avec Alain. On a une des chiennes qui reste toujours autour de nous, qui attrape un petit marcassin. Alors on était ce qu'on appelle grignon. Grignon, c'est sous la montagne de Pal. La petite chienne, elle nous attrape un petit marcassin. Mais alors ma chienne qui devait faire, pas moi, 1,5 kg ou 2 kg, qui était née de la nuit ou de la nuit d'avant. Et tu l'entendais, il gueulait, oui, 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 il gueulait. Et moi, je l'ai attrapé. Je l'ai foutu dans mon sac à dos en le laissant ouvert. Je me suis éloigné des chiens. Je me suis éloigné de la chasse où on était. Et je suis allé le relâcher dans les hauteurs parce qu'on a l'habitude, on connaît tellement par cœur où passe le gibier, où ils ont l'habitude de nicher. Et je suis allé sous les crêtes de Grignon pour relâcher ce petit marcassin en espérant qu'il retrouve son petit troupeau, quoi. Mais la maman, normalement, elle reste toujours dans le coin. On a l'habitude, on essaie. C'est un peu compliqué parce que quand il y a un sanglier qui te sort dans les bois, quand il n'est pas suité, il n'a pas les bébés derrière, tu ne peux pas savoir si c'est une femelle ou un mâle. Ce serait bien. Hein. Si en orange, je ne me tirais pas, c'est la femelle. Voilà, par exemple, ce serait bien. Par contre, quand ils sont suités, il n'y a pas d'arrangement. On ne tire surtout pas les femelles suitées. Ça, c'est pareil. Quand il arrive un troupeau de sangliers, ce qu'on appelle un troupeau, une harde, une horde, comme on veut, hein, on tire jamais le premier, parce que c'est toujours la mère meneuse, la lait meneuse. Jamais on tire le premier, jamais. On tire le dernier, on tire celui du milieu. Moi, j'aime bien tirer celui du milieu parce que c'est pas gros. C'est facile à transporter. Ça, on n'enlève pas le mâle qui est souvent à la fin, qui est le géniteur. C'est celui du milieu. Bon, c'est la chasse, ça fait partie de la chasse. Dernière anecdote, j'étais à la palette. C'est un des postes emblématiques de notre équipe. Alain me dit, Chris, tu vas où? Je dis, je vais à la palette ce matin. Il me dit, oh putain, c'est loin. Je dis, ouais, mais je pars avant, vous buvez le café, je monte. Alors je pars, tranquille, j'arrive en haut, et il me voit, comme on est en orange, je suis tout en haut de la montagne, et il me voit, donc il peut lâcher les chiens. Et il lâche les chiens, et ça part de côté. Oh, dégoûté, putain, c'est maille pas pour moi. Je reste toujours à ma place, arrive presque le moment de partir, et là, il arrive carrément, mais il y en avait, je sais pas moi, 25, 30, 40. Il y avait de partout. Et là, je me dis, un gros, un petit, un moyen, et si tu tires pas, je me dis. Après, je me dis, oh, t'es quand même monté là. Eh bien, j'ai pris mon temps, j'ai essayé d'en choisir un qui était, pour pas le blesser ni rien, qui était pas trop loin de moi, et entre guillemets, facile à tirer en belle, pas avec des herbes devant, pas dangereux. J'ai choisi un petit cochon qui faisait 27 kilos. Voilà, j'ai tué mon sanglier, tous les autres qui sont partis, je me suis régalé, ça courait tout autour de moi. Ça, la terre, elle tremblait, c'était trop drôle. J'étais sur le caillou, ça tremblait quand même. Je suis allé ramasser mon petit cochon et je l'ai descendu comme Obélix sur le dos, là. Et je l'ai ramené en bas à l'équipe et on l'a fait comme d'habitude, on va le faire au four. Au four, c'est l'endroit où on se retrouve et où on espaye les sangliers, les chevreuils et les cerfs. Et où c'est quand on boit le café le matin. Ouais. Si j'attaque la chasse, j'ai des dizaines. J'ai des trucs de fou. Un jour, mon frère, il me dit, ah, Chris, viens, on se met au-dessus de chez Alain de l'œil. Donc, c'est de l'autre côté. Là, c'est côté ce qu'on appelle côté Lure. Et on se poste. Il faisait putain qu'il est froid parce que il devait faire 2-3 degrés, mais il y avait un mistral à nous arracher la tête. Et du coup, on ne se poste pas comme on se poste d'habitude, c'est-à-dire face à la chasse. On se poste dos à la chasse. Et dos à la chasse, t'as guère de place pour tirer en sécurité, t'as guère de place. J'ai vu une action de chasse. On n'avait jamais tué de cerf, mon frère et moi, ni mon père. C'était il y a 5 ans, je crois. Et là, il nous sort un cerf entre lui et moi. Mais un petit peu plus près de lui. en plein dans le champ, avec les chiens derrière à fond la caisse. Il avait une quarantaine, cinquantaine de mètres d'avance sur les chiens. Mais il sort un cerf, mais on aurait dit une balle. On aurait dit un merle qui vole à ras le sol tellement qu'il allait vite. C'est pas possible, comment ça. Un chien qui fait. Alors, il fait, comme il a tué, il faisait 127 kilos. Mais c'est incroyable comme ça court vite. Il a traversé le champ en deux temps, trois mouvements. Et il a attaqué à monter. Et comme c'était un gros coup de. Qu'on appelle un gros coup de cul, là, ça montait beaucoup. Ça l'a ralenti à ce moment-là. Parce que mon frère, dans le champ, il le manque. Hyper dur à tirer, ça va vite. La balle, elle est passée derrière. Moi, j'ai tout vu en live. Alors là, j'ai kiffé. C'était un truc de malade. Mon petit frère, qui tue le premier cerf de notre famille, et presque de notre équipe, parce qu'il s'en était tué que deux. On commence à peine à avoir des plans de chasse depuis une dizaine d'années. Et là, il tue ce cerf majestueux avec plein de bois et tout. J'ai encore les photos de mon frère qui tient la tête de son cerf. Alors oui, c'est vrai, on tue, et je l'avoue. Mais on vit des choses que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. On nous dit, ouais, on est des tueurs. Bon, mais de toute façon, on est tous des tueurs. Quand on bouffe de la viande de bœuf ou même poulet, on l'a tué. On vit des choses incroyables. Bon, là, c'est le lien familial, c'est mon petit frère, j'en ai que. On vit la fierté que le meneur de chien se soit, entre guillemets, défoncé, cassé le cul, aller en haut de la montagne pour aller te chercher le gibier avec ses chiens, qui te l'a fait redescendre vers toi ou remonter vers toi, et qu'après tant d'efforts des chiens, du gars qui mène les chiens, tu arrives à pouvoir tirer la bête en belle, pas la blesser, la servir, quoi, comme on dit. Et la fierté d'être arrivé à tuer un cerf, parce que c'est un petit peu comme quand tu vas à la chasse au petit gibier, que tu tues une bécasse, un cerf. C'est la bête majestueusement royale de la chasse. Le cerf, il n'y a pas plus gros, quoi. Il n'y a pas plus imposant. On dit toujours que c'est le roi de. C'est pas le loup, le roi de la montagne, c'est le cerf. Hein. Le loup, il s'amuse pas avec le cerf. Jamais. Et le loup, il coince un sanglier, ça ouais. Mais il ne coince pas un cerf, c'est pas possible. À part des bébés, un fan, oui. Et puis, c'est bizarre parce que lui, il vit seul, le cerf, tout le temps. Sauf quand il est en version de brame. Donc, en version de brame, là, c'est de la fin septembre à la fin octobre. C'est quasiment tout le mois d'octobre, on ne peut pas le chasser. Alors, on ne peut pas le chasser. Tu pourrais le chasser, mais c'est n'importe quoi de chasser un cerf pendant le brame parce qu'il est en rut, il pue la pisse, il faut pas le chasser. Voilà, c'est comme ça. Par contre, il faut le chasser juste avant et bien après. Et nous, on le chasse principalement après, on va dire, on commence à le chasser sérieusement à partir du 10 décembre. Voilà, il a fini son brame, il est plus difficile de le trouver, il faut un peu plus monter, un peu plus, il se cache. Mais il est encore là, il n'est pas encore parti. Il n'est pas encore parti dans la louée tout en haut de l'Ure, où il est accessible encore. Mais c'est vachement difficile de chasser le cerf, le mâle. Hein. La femelle, c'est plus simple. C'est plus simple parce qu'elle a tendance à vouloir rester avec le fin de l'année d'avant, qu'on appelle ça le daguet, ou quand c'est un jeune mâle, ou la jeune biche. Des bêtes qui font 70-80 kilos, c'est des ados, quoi. Des jeunes adultes, on les appelle. Mais le mâle, lui, pour le trouver tout seul, ça c'est vraiment difficile, le mâle. On a un plan de chasse défini. Mon froc étant du 26, hein, c'est le seul village de la vallée du Jabron qui est dans la Drôme. C'est bizarre, ça fait une langue. Bon, moi je chasse à cet endroit-là. C'est tombé comme ça de la vie. Ça aurait pu être l'Ange, Curel ou les Omergues. C'est mon froc. Donc on a les règlements de chaque département qui sont différents. Le plan de chasse qui nous a été octroyé, il nous est octroyé sur 3 années qui courent. 3 années consécutives, c'est-à-dire que là, on vient de finir la 3e année, donc on redémarre une série de 3 ans. On vient de faire le point avec Sébastien, qui est notre président, Sébastien Brune. Il nous a dit qu'on avait, pour les 3 ans, 4 biches, 4 fans, 5 cerfs. Ça, c'est notre plan de chasse qu'on doit se gérer sur les 3 années. Alors, si tu les tues tous la première année, tu as fini de chasser, tu chasses plus cerfs. Alors, nous, on se règle. Cette année, il y a un fan qu'on n'a pas pu tuer, on a rendu la bague. Il n'a pas été prélevé et c'est pas tombé dessus, puis on n'est pas trop amoureux de tirer des bêtes comme ça. Ça fait partie du plan de chasse, ils nous l'ont donné. S'ils nous le donnent, nous les chasseurs, pour la logique, on est des réguleurs. Mais quand tu ne peux pas le tirer, c'est que ou tu n'es pas tombé dessus, ou tu n'as pas eu la chance, ou tu l'as manqué. Parce qu'il y a une fois, il y a un pépé de l'équipe qui l'a manqué. C'est tombé comme ça, on n'a pas dû le prélever, on l'a rendu. Alors c'est pareil pour le chevreuil. Donc là, le chevreuil, on a le palanquier de bracelets, je crois qu'on en a peut-être 40 pour 3 saisons, peut-être même 45. Il faut voir, j'ai pas vu Seb, on le voit, on fait la petite bouffe d'équipe une fois par an, et ça sera le dimanche 15 avril. On va manger, tous les ans, on mange un bout ensemble avec nos épouses, on invite nos épouses et on passe un bon petit moment tous ensemble pour faire un peu le point de la saison, pour c'est à l'avenir. C'est vraiment un peu un esprit, c'est tout autour des anciens qui ont plus de temps que nous. Hein. Nous, on est actifs, on est à fond. Eux, ils ont plus le temps. Je vois mon papa, 70 ans, ils viennent, on a la chance de les avoir. Hein. Ils nous préparent les chemins, ils nous font des miradors pour qu'on puisse tirer en sécurité. Ils sont terribles, ces vieux. Si on ne les avait pas, la chasse, elle ne serait pas ce qu'elle est. Et j'espère que la prochaine génération, on puisse les aider comme nos anciens nous aident. Bizarrement, on pensait qu'on n'allait pas trop avoir de jeunes. Et là, on en a déjà. Ils ont 15 ans tous les deux. Ils ont chassé cette année en chasse accompagnée avec leur papa. À partir de l'année prochaine, ils auront leur carte de chasse et leur carabine à eux. Les minots, tu lui dis, tu vas au poste tout là-haut, à la palette. Il y va un quart d'heure, toi tu mets trois quarts d'heure et t'es mort. C'est des lièvres, ils ont le ventre plat, mais pas dans le même sens que nous.